Aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir M. Hamel et Mme Tremblay du regroupement provincial des comités d'usagers. Et nous parlerons avec eux des droits des usagers. Qu'est-ce qu'on entend par là, M. Hamel?
Donc, le premier droit qu'on peut informer, c'est le droit à l'information. Donc, ce droit, c'est vraiment dans le cadre où la personne doit être informée de son dossier, doit être informée de la gravité ou de la possibilité de traitement, etc. C'est vraiment un cadre d'information au niveau là, de l'usager. Le deuxième mot.
J'ajouterais peut-être, si les gens qui écoutent ce balado ce matin ou après-midi, ou quand vous l'écoutez, vous avez envie de l'avoir, d'avoir le portrait des 12 droits, n'hésitez pas à appeler au RPCU, on vous enverra ça, là. Vous l'aurez avec vous, puis vous pourrez le consulter, là. C'est une page, on le fait en impression, et puis ça vous aide aussi à comprendre mieux, puis à se souvenir aussi. Alors, voilà.
Et j'ajouterais que chaque comité, habituellement, ont des pamphlets, si vous consultez vos comités de vos régions, les comités ont des pamphlets là, sur les 12 droits, et accompagne aussi les gens là, dans certains dossiers. Le deuxième droit qu'on peut constater qui est au niveau de la loi, là, c'est le droit aux services. Donc, c'est le droit d'avoir des services. On est dans une période qui est pas si simple là, présentement, là, mais ça fait partie des 12 droits d'avoir les services.
On a le droit, mais on ne dit pas quand.
C'est ça. Il y a des listes d'attente, il y a certaines difficultés présentement là, au niveau des services, mais dans les droits, c'est une partie importante d'avoir les services que requiert un bénéficiaire ou un usager. Le troisième droit qui est ensaché dans la loi, c'est le droit de choisir son professionnel ou l'établissement. Or, dans cette période un petit peu turbulente, je pense que le choix d'un professionnel est assez difficile quand on n'a pas de professionnel, quand on a des personnes qui sont sur des listes d'attente depuis fort longtemps pour avoir un médecin de famille ou pour avoir un spécialiste. Donc, on se pose des questions des fois sur l'ensemble des droits qui sont là en fonction de ce qui est vraiment amené dans le cadre là, de nos problèmes journaliers, en fin de compte, dans le système de la santé. Le droit numéro 4, qui est le droit de recevoir les soins que requiert son état. Alors, je vous avoue que là, avec les listes d'attente qu'on a, c'est assez spécial comme cadre, là, mais vous voyez, on a 4 droits là, de discuter à date ensemble. Là. Et je pourrais dire qu'à chacun des droits, il y a un non-respect de la part du service de la santé dans ce cadre-là. Alors que c'est ensaché dans une loi. Le cinquième droit, c'est de consentir à des soins. Donc, une personne peut refuser d'avoir des soins. Peut dire, moi, je ne veux pas les soins à tel endroit, je veux aller à un autre établissement où la liste d'attente est trop longue, donc je peux aller dans un autre établissement parce que la liste est moins longue. Donc, il y a des choix au niveau de l'usager. Le sixième droit, c'est de participer aux décisions au niveau de ces traitements. Et au niveau aussi, là, quand on regarde de rejoindre les droits qui sont là, il y a aussi là, une décision de choix professionnel.
Mais j'ajouterais dans ce sens-là, Pierre, particulièrement pour les personnes qui ont un handicap, qui avaient une vision il y a quelques années de plan de service où on réunissait tout le monde et puis on a, avec les familles, la personne elle-même, et on avait une vision macro un peu plus des services. Alors ce droit-là, permet aux personnes plutôt vulnérables, à la fois bien sûr dans leurs épisodes de soins, mais des personnes qui ont à la fois un handicap ou des problèmes particuliers au niveau social, de participer aux décisions qui leur permettent d'avancer dans ce réseau-là.
Alors, le droit numéro 7, c'est le droit d'être accompagné, assisté et représenté. Je vais vous donner un exemple dans cette situation-là, ou un exemple que j'ai vécu moi-même. J'accompagnais une personne qui était en problème de crise à l'hôpital et le médecin ne voulait pas que j'accompagne la personne avec la personne dans la salle de consultation. Et là, j'ai donné au médecin, j'ai demandé à la personne qui m'accompagnait si elle voulait que je sois présent. Et la personne a dit oui. À ce moment-là, j'ai sorti mon petit pamphlet de droit et j'ai montré le droit au médecin. Et je voulais vous dire que la rencontre a été assez...
froide.
Sec. Mais la personne était démunie et je me devais de l'accompagner parce que, vous savez, quand on va chez le médecin, souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on est tellement anxieux et en douleur souvent, qu'on ne comprend pas des fois ce que le médecin dit. Mm-hmm. Donc, d'accompagner, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. La personne peut prendre des notes. Je pense que c'est quelque chose qui est primordial pour qu'une personne ait la possibilité d'être suivie de façon adéquate.
OK.
Et le huitième droit, c'est le droit à l'hébergement. Donc, une personne a le droit à l'hébergement. Autant, ça touche toutes les clientèles. Ça touche les clientèles autant au niveau de la jeunesse, autant des personnes âgées, autant les personnes vulnérables, ceux qui ont des problèmes de déficience physique, ceux qui ont des problèmes de déficience intellectuelle et du trouble de l'autisme. Donc, il y a dans la loi le droit à l'hébergement. Ça aussi, c'est un article de droit qui, à mon avis, en ce moment, n'est pas tout à fait respecté parce qu'il y a quand même des longues listes d'attente au niveau de l'hébergement.
Mm-hmm. Oui.
Et on utilise souvent aussi, là, le privé ou le privé conventionné pour que les gens puissent avoir des endroits pour se loger. La loi numéro 9, c'est le droit de recevoir des services en langue anglaise. Bon, ça, c'est un droit qui est souvent aussi difficile à appliquer dans certaines régions, mais de plus en plus, en tout cas, si je regarde au niveau de ma région, on a des traducteurs. Que ce soit au niveau espagnol ou autre, on a des traducteurs là, pour aider les gens au niveau anglais et autres langues. Là. Et parce qu'on se rend compte que de plus en plus, surtout à Montréal, on a beaucoup de multiculturalisme. Donc, les gens, souvent, ça fait pas longtemps qu'ils sont ici ou quelques années, et la difficulté d'apprendre le français, mais on a prévu là, dans la loi de donner le service en anglais.
Et au-delà, Pierre, pour ajouter, le ministère a dédié aussi des établissements qui sont responsables de que les personnes puissent accéder à des services en anglais. Donc, il y a des établissements désignés là, à ce niveau-là.
Le dixième droit des usagers, c'est le droit à l'accès de son dossier. Le droit à l'accès du dossier, souvent, c'est pas connu de la part de plusieurs personnes. Et donc, c'est intéressant de pouvoir consulter son dossier pour savoir exactement ce qui est fait comme traitement et les résultats des différentes analyses là, qui sont faites. Et aussi, ça sécurise la personne vis-à-vis la situation qu'elle vit.
Et dans ce contexte-là, dans le contexte où le ministre prévoit la loi 19 là, pour les données, Ce qu'on se rend compte aussi, et on l'espère, c'est que ça va améliorer l'accès au dossier, à la fois pour les professionnels et pour la personne elle-même qui, par exemple, ce qu'on se rend compte, c'est que, type d'exemple, il y a quelqu'un qui a besoin d'un soin qui n'est pas dans sa région, toutes les problématiques liées au dossier qui ne suivent pas. Alors, on espère qu'avec le projet de loi 19, il y aura une grande amélioration dans ce contexte-là. On l'espère parce que ça devient très difficile pour les personnes là, qui sont malades là, d'avoir un leur dossier qui soit mis à jour puis qu'on puisse l'avoir correctement là, pour des soins interrégionaux, par exemple.
On pourrait proposer de donner un fax à chacun des Québécois.
Je m'en venais vous parler de ça justement, parce que vous savez, quand vous voulez envoyer à l'hôpital, vous ne pouvez pas envoyer un courriel. Il faut absolument envoyer un fax, exemple pour une IRM, une résonance magnétique que vous avez à passer. Il faut vous envoyer un fax. Donc, moi, chez nous, il faut que j'aille au dépanneur. Le dépanneur a le fax, envoie le fax. Il faut que j'attende pour voir si le fax est passé ou pas passé. Alors, je vous dis que c'est vraiment... On est vraiment dans la haute technologie.
Oui, oui, oui. Il manque juste le cheval pour aller porter la lettre.
Je comprends un peu, M. Dubé, de vouloir mettre un système d'information qui est plus adéquat. Là. Je comprends son anxiété quand on est en problème de crise et qu'on n'est pas capable d'avoir l'information qu'il faut. Là. C'est pas évident. Donc, je pense que de plus en plus, on devrait mettre un cadre qui est populationnel, une vigie populationnelle, de sorte que les gens soient des personnes décisionnelles dans le système de la santé. Les gouvernements changent tout le temps et pour bien paraître, on a l'impression des fois que d'un gouvernement à l'autre, ils veulent faire des bons coups. Et je pense que c'est plus, on s'engouffre plus de plus en plus. Donc, il faudrait une continuité là, dans les décisions des systèmes de santé et pas un suivi au niveau de chaque gouvernement qui sont en place, mais un suivi au niveau d'une vigie populationnelle qui ferait un suivi à long terme au niveau des dossiers.
Le 12e droit qui est quand même important. C'est le droit de porter plainte. Alors, dans chaque établissement, il y a des commissaires aux plaintes qui peuvent prendre les plaintes. Nous, on peut accompagner les centres d'aide aux plaintes. Il ne faut pas hésiter quand on considère que nos droits sont bafoués de porter plainte. Quelquefois, on se dit à quoi ça sert, puis souvent on est malade, puis on n'a pas l'énergie. Mais je pense que ça aussi, ça permet une amélioration continue. Alors, si n'hésitez pas à vous faire accompagner si jamais vous considérez que c'est inacceptable ou que ça n'a pas de bon sens ou que vous voulez porter plainte sur ce que vous avez vécu. Ça fait partie aussi de l'exercice. Comme disait Pierre, on est actionnaire, alors on peut dire ce qu'on a à dire, on peut le porter dans un contexte de plainte parce qu'on considère qu'on n'a pas été adéquatement desservi. Donc, il faut revenir aux droits essentiels, puis le droit de porter plainte, là, ça fait partie du coffre à outils. Là.
On a oublié un droit.
Ah oui, le 11.
Pour moi, un droit quand même assez important, puis qui est bafoué à plusieurs reprises. Alors, c'est le droit à la confidentialité de son dossier. Alors, quand on va à l'hôpital, souvent, on se rend compte que le médecin, exemple, tu vas être dans ton lit et deux médecins vont parler ensemble dans le corridor. Et là, ils vont dire, ah, ben on pense que ce monsieur-là a un cancer ou on pense qu'il a un problème urinaire ou il y a ci ou il y a ça. Et ça, c'est écouté par d'autres personnes. Alors qu'il devrait y avoir un endroit spécifique pour et confidentiel pour discuter du dossier d'une personne. On ne peut pas, exemple, comme qui se fait souvent à l'urgence, tu es sur ton lit à l'urgence et le médecin arrive et il dit « Bon, ben monsieur, vous avez tel problème. » Mais il n'y a aucune confidentialité là-dedans sur son dossier. Donc, ça, c'est un droit qui, souvent, on reçoit des plaintes de la part d'usagers. c'est vraiment quelque chose qui n'est pas respectueux, puis qui n'est pas éthique, et qui ne rencontre pas non plus une déontologie au niveau des médecins, à mon avis.
Bon, mais Mme Tremblay, M. Hamel, je vous remercie beaucoup.
À très bientôt.
C'est vrai, M. Beaulieu, merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.